France Inter.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. La décarbonation de notre industrie et ses conséquences concrètes pour un village du Pas-de-Calais qui va accueillir plus de 200 ouvriers chinois. Pendant 2 ans, il s'agit de décarboner la cimenterie locale, on vous raconte dans un instant. Et nous verrons que le gouvernement veut aussi accélérer les procédures pour ouvrir de nouvelles mines en France. Sortir les ménages les plus aisés des HLM, l'annonce du ministre du Logement ce matin fait réagir. On va vous expliquer ce projet et écouter également la présidente de l'Union sociale pour l'habitat, Emmanuelle Cosse. Elle représente les bailleurs sociaux. Le logement social à vie, dit-elle, ça n'existe pas. À suivre encore, l'armée française qui lance une mission d'inspection sur les violences sexistes et sexuelles. La France qui déconseille les déplacements au Proche-Orient, inquiète des risques de représailles de l'Iran sur Israël. Et puis cette sonde américaine, bonjour Sophie Becherel.
Bonjour.
Elle sera lancée à l'automne, direction Jupiter.
Europa Clipper va explorer Europe, un des nombreux satellites de la grosse planète. Pourquoi ? Eh bien pour vérifier si les conditions favorables à la vie sont présentes ou pas.
Vos explications dans quelques minutes. On parle aussi du marché du livre d'occasion. En plein boom, Emmanuel Macron promet de le réguler. Et puis des vacances scolaires qui débutent ce soir en zone A et les camping-cars sont déjà prêts en Dordogne.
On a un moteur, on a des roues, c'est pour se déplacer, c'est pour visiter. Moi, je ne conçois pas des vacances autrement. Quoi.
Moi, dès qu'il y a un rayon de soleil, dès qu'il n'y a plus de pluie, je pense qu'à ça.
Et rayon de soleil confirmé, les prévisions météo dans une demi-heure. À 13h30, tout ce que vous voulez savoir sur votre cerveau avec la neuropsychologue Sylvie Chocron. Comment fonctionne-t-il ? Comment mieux s'en servir ? Elle publie Dans le cerveau 2 aux presses de la Cité. J'attends vos appels. 01 45 24 7000. 13h50, c'est la France. La tradition du basket dans le Nord. Les basketteuses de Villeneuve-d'Ascq sont en demi-finale de l'Euroleague cet après-midi. Ce sera avec le journal L'Équipe. Et puis juste avant 14h, carte blanche au chanteur Raphaël qui nous interprète une merveilleuse chanson de Pierre Bachelet. Voilà, vous avez le programme. Merci de passer cette heure avec nous.
Inter.
Ce sont deux illustrations concrètes de la transition énergétique engagée dans notre pays pour émettre moins de dioxyde de carbone. Nous verrons dans un instant que le gouvernement veut simplifier l'extraction de minerais. Des minerais, dit-il, indispensables aux transitions. Mais d'abord, allons dans le Pas-de-Calais. Là, c'est une cimenterie qui se décarbone. Nous sommes à Cléty, près de Saint-Omer. L'objectif est de piéger le CO2 qu'émet cette cimenterie pour ensuite le séquestrer en mer du Nord. Pour cela, il faut construire un four géant, c'est une entreprise chinoise qui va le faire et pour cela elle fait venir 250 de ses ouvriers directement de Chine. Ils vont rester 2 ans dans un vrai village miniature. Reportage Alice Marot.
C'est le sujet de conversation en ce moment dans le village. Dominique et Joël en discutent sur le bord de la route.
Au départ, moi, quand on a reçu la feuille, je pensais que c'était pour demander l'avis des villageois, voir si c'était possible de se faire. Mais en fait, c'était pas ça. C'était pour se mettre devant le fait accompli, ça sera là. On vous le dit.
Passer l'effet de surprise, c'est plutôt la curiosité qui l'emporte.
À mon avis, il y aura des encadrants.
Il y a des interprètes avec eux, tout.
Bon, après, voilà. Ça peut très très bien se passer, hein, pourquoi pas.
Sur leur lieu de vie, les ouvriers auront leur propre salle de détente, leur propre cantine aussi. Mais le week-end, ils pourront profiter du village et pourquoi pas du salon de coiffure de Sabine.
Peut-être qu'on va peut-être coiffer 250 Chinois, c'est ça. Faut peut-être se mettre à parler la langue. Bon, je pense qu'il faut prendre ça positivement, puisque là, limite, c'est fait. Donc, ça ira, il n'y a pas de raison.
Le terrain appartient à la communauté de communes. Le maire, Serge Lagové, n'a pas vraiment eu son mot à dire. Il espère maintenant que la cohabitation se passera bien.
Je donne l'exemple, on a un city stade où les jeunes jouent régulièrement. On n'a pas un équipement suffisant pour eux, quoi. Donc il faut s'adapter. Et après, les échanges avec la population, on verra, quoi.
En tout, 200 bungalows vont être installés sur le terrain de Cléty.
Reportage France Bleu Nord, l'installation de ces nouveaux logements va débuter dans les prochains mois. Et puis, il y a donc ces projets d'ouverture ou de réouverture de mines qui fleurissent dans plusieurs régions. Là, l'idée, c'est d'extraire des minerais utiles pour décarboner l'industrie ou les transports. Et le gouvernement fait le constat que les procédures actuelles sont trop contraignantes. Bonjour Mathilde Dehimy.
Bonjour Jérôme.
Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, annonce ce matin une série de simplifications.
Oui, une retouche du sous-sol, le code minier, qui fait partie du projet de loi plus vaste, hein, beaucoup plus vaste de simplification, très attendu des entrepreneurs et des agriculteurs. Il sera présenté dans 2 semaines en Conseil des ministres et ce matin, donc, Bruno Le Maire a pris un peu d'avance pour annoncer une accélération des procédures dans sa première partie, à savoir la consultation. Avant d'octroyer un permis pour de la géothermie ou l'extraction de minéraux, par exemple, il faut maintenant, désormais, il faut d'abord solliciter les services des préfectures, puis les collectivités territoriales, puis les habitants. L'idée là est de lancer ces trois étapes en parallèle et diviser ainsi par deux les temps de procédure en gagnant 6 mois par projet. Autre simplification, il sera plus rapide d'obtenir une prorogation de permis si les travaux ont été retardés par des circonstances exceptionnelles. Enfin, le gouvernement prévoit de faciliter la reconversion des puits d'hydrocarbures en vue d'y stocker du CO2. Tout ça, assure Bruno Le Maire, n'aura aucun impact négatif, dit-il, sur l'analyse des impacts environnementaux. La finalité, c'est bien sûr une meilleure compétitivité et souveraineté, particulièrement en métaux rares, le lithium, mais aussi le cuivre, filière qu'il faudrait relancer, alerte Bercy. En 2040, on aura besoin de 42 kilotonnes de cuivre par an pour accorder notamment éoliennes offshore et panneaux solaires.
Merci Mathilde Dehimi. Nous vous en avons longuement parlé ici même la semaine dernière avec nos invités. Plusieurs femmes, militaires ou ex-militaires, ont témoigné ces dernières semaines des violences sexuelles subies dans l'armée. Elles mettent en cause leurs agresseurs, mais aussi leur hiérarchie, accusée de ne pas les avoir protégées. Deux parlementaires se sont emparés de ce sujet et aujourd'hui, le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, annonce le lancement d'une mission d'inspection. Bonjour Ajra Mohamed.
Bonjour Jérôme.
Désormais, chaque militaire soupçonné, si les accusations sont vraisemblables, sera systématiquement suspendu.
C'est à l'agresseur de sortir du rang. Voilà le message publié par le ministre sur le réseau social X ce matin, un peu plus tôt dans une tribune qu'il signe dans le journal Le Monde. Sébastien Lecornu confirme, chaque fois qu'il existe une suspicion de viol ou d'agression sexuelle présentant, je cite, un caractère suffisant de vraisemblance, le ou la militaire mise en cause sera suspendu. La consigne a été envoyée à tous les commandements de l'armée. Après la multiplication des témoignages comme celui de Manon Dubois, victime à l'âge de 17 ans d'agression sexuelle sur un navire de la marine française. Écoutez, elle racontait à Gaëlle Joly, notre consoeur de France Info.
Bah en fait, ça pouvait aller de la simple main aux fesses ou l'effleurage à tenter de m'embrasser de force ou me plaquer contre mon plan de cuisine et se coller à moi et frotter son sexe contre le mien, enfin ce genre de choses. C'était au minimum, je dirais, une, deux fois par semaine, pendant un an et demi du coup.
Et Manon Dubois écarté de la marine alors que son agresseur militaire, lui, est copé seulement de 10 jours de mise à pied. Cette mission d'inspection doit justement évaluer toute la chaîne de la prise de décision aux sanctions et faire le bilan de Témis, cette cellule lancée il y a 10 ans qui recueille les signalements dans l'armée française. Il y en a eu 226 l'an dernier, ça on le sait. En revanche, on ne sait toujours pas combien ont fait l'objet de sanctions disciplinaires.
Merci Ajra Mohamed pour ces précisions. Dans le département de l'Essonne, une fillette de 3 ans et son frère âgés de 20 mois, ont été retrouvés morts ce matin, commune de Forges-les-Bains. C'est leur père qui a indiqué aux autorités les avoir tués. Il a été placé en garde à vue pour l'assassinat de ses deux enfants. C'est l'un des aspects de la crise du logement dans notre pays. 1 800 000 ménages attendent un logement social et dans le même temps, selon le gouvernement, 8% des locataires de HLM ne remplissent plus les critères pour entrer dans ces logements. Alors la situation n'est pas nouvelle, mais cette fois, le ministre délégué au logement, Guillaume Kasbarian, veut passer par la loi pour la régler. Bonjour Claire Chaudière.
Bonjour.
Son idée, c'est d'inciter les ménages les plus aisés à partir.
Oui, l'examen des situations financières des ménages chaque année existe déjà aujourd'hui, mais il ne se fait pas de manière suffisamment pointue, précise, explique l'entourage du ministre du Logement que nous avons pu joindre ce matin. Il faut systématiser, automatiser l'accès des bailleurs sociaux à des données fiscales et inclure les données de patrimoine. Inadmissible, répète-t-on, de voir dans le parc social des locataires ayant par ailleurs des résidences secondaires. Alors, difficile de savoir combien de ménages on parle. L'exécutif ne donne aucun chiffre précis sur ce point. Mesure à venir, en tout cas, donc le durcissement de ce qu'on appelle les surloyers pour les locataires qui dépassent les plafonds de ressources. Un déclenchement probablement plus rapide. Aujourd'hui, 3% des locataires du parc sont concernés, accompagné d'une augmentation des montants pour les rendre plus dissuasifs. Le gouvernement touchera-t-il par ailleurs au plafond au-delà duquel les locataires sont carrément priés de sortir du parc social, aujourd'hui fixé à 150% des plafonds de ressources? Impossible de le dire aujourd'hui. Chaque année, en tout cas, quelques milliers de locataires reçoivent déjà un préavis pour leur demander de quitter leur HLM. Ils ont alors 18 mois.
Il y a un autre problème dans ce dossier, Claire, c'est que le nombre de communes qui ne respectent pas la loi en la matière, la loi SRU, ces communes sont de plus en plus nombreuses.
Oui, on parle de cette loi SRU qui fixe des quotas HLM par commune. Eh bien, effectivement, effectivement, la dernière période a été très mauvaise, hein, dit la commission chargée d'examiner ces dossiers. Ça s'aggrave, la faute en partie à la crise de la construction de logements, à l'inflation bien sûr, mais pas que, il y a aussi parfois de la mauvaise volonté. 341 communes ont ainsi été épinglées pour ne pas avoir rattrapé leur retard suffisamment. La palme à la région PACA, citons Carry-le-Rouet dans les Bouches-du-Rhône, Roquebrune, Cap-Martin, Toulon ou encore Nice. Autre mauvais élève, Saint-Maur-des-Fossés ou le Raincy en Seine-Saint-Denis pour la région parisienne. L'exécutif espère régler le problème en permettant aux communes d'inclure les logements intermédiaires dans leur quota HLM, mesure qui divise détricotage de cette loi SRU, dit certains.
Merci Claire Chaudière pour ces explications. Bonjour Emmanuel Cosse.
Bonjour.
Vous êtes la présidente de l'Union sociale pour l'habitat. Vous représentez les bailleurs sociaux et vous avez été par le passé ministre du logement de François Hollande. Emmanuel Cosse, est-ce que c'est un problème pour vous aujourd'hui, ces ménages qui dépassent les plafonds de revenus mais qui occupent toujours un logement social ?
Alors tout d'abord, je voudrais le redire, il n'y a pas de logement social à vie, contrairement à ce qui est dit par le ministre, puisqu'il y a des contrôles qui sont faits tous les ans, comme l'a rappelé Claire Audière. Et il y a, en fonction de ça, si les ménages dépassent les plafonds fixés par la loi, ils sortent du logement social.
Combien de personnes, combien de ménages sortent chaque année ? Est-ce que vous avez des chiffres ?
Je peux pas vous dire combien en sortent en raison de ce sujet-là, puisque moi, ce que je vois, c'est le nombre de ménages qui sortent et qui, après, on réattribue leur logement. C'est dans les meilleures années, 400 000 logements réattribués. Dans les pires années, 320 000 logements attribués.
D'accord, mais ce que vous nous dites, c'est que chaque année, il y a des ménages qui sortent pour cette raison.
Absolument. Mais de toute façon, ils sont contrôlés et si les ménages ne donnent pas leur feuille d'imposition, la réalité, c'est qu'on leur applique le surloyer le maximum et qu'au bout d'un certain temps, ils devront sortir. Pour dire les choses très simplement, on fait ça chaque année. C'est une obligation. Si le bailleur ne fait pas ses enquêtes locatives, il a des sanctions. Donc, c'est très encadré. J'entends là que le gouvernement veut renforcer le sujet. Pourquoi pas? Mais on va dire les choses franchement. On parle de 1,7 million de ménages qui attendent un logement social en urgence. Vous comprenez bien que comparé aux 80 000 ménages qui payent un surloyer aujourd'hui dans le parc social, c'est quand même des ratios qui n'ont rien à voir.
Le gouvernement dit 8%. 8% des locataires ne remplissent plus les critères pour rentrer dans les logements.
Je le dis très franchement, puisque depuis ce matin, j'essaie de chercher ce chiffre. Je ne sais pas d'où vient ce chiffre. Moi, j'attends que le gouvernement nous donne ces éléments. On a encore vu le cabinet du ministre il y a quelques jours. Ils nous ont pas parlé de ce chiffre. Donc, moi, si vous voulez, il y a un moment.
Parlent de 400 000 locataires. Hein, voilà.
Donc je pense de ménage, parce que par ailleurs c'est le ménage, hein, et pas le locataire, mais Je suis incapable de vous le dire. Moi je sais aujourd'hui vous dire que 80 000 ménages payent un surloyer en raison de leurs revenus, qu'un certain nombre partent puisqu'il y a des contrôles chaque année, qu'on renforce les choses, moi j'ai pas de problème avec ça, on reçoit de l'argent public, on a à rendre des comptes, c'est pas un problème. Mais on va se dire les choses franchement, la question aujourd'hui c'est qu'on a pas assez de logements sociaux. C'est pas ce sujet-là qui va répondre à la crise. Donc... Franchement, ça fait un an qu'on essaie de se battre, tous les acteurs du logement, pour obtenir une relance de la construction. Et là, ce matin, on a une polémique sur, soi-disant, le mirage du logement social à vie qui n'existe pas. Après, je le dis franchement, si demain, par la loi, on nous donne autorisation d'avoir automatiquement les données de revenus des ménages dans le contrôle, ça va nous simplifier la vie. On demande cette automatisation depuis 2017. Donc, vous voyez, on est assez à l'aise là-dessus. Nous, si on peut faire mieux les enquêtes locatives, on les fera mieux et on rendra des comptes à l'État plus rapidement.
Ça veut dire avoir quel type d'informations que vous n'avez pas aujourd'hui, Emmanuel Cosse ?
Aujourd'hui, on n'a pas de communication directe de fichiers des impôts jusqu'à nos bases d'enquête sur la feuille d'imposition. C'est le locataire qui nous donne sa feuille d'imposition.
Donc là, vous pourriez y avoir accès directement, si je puis dire. Idem pour le patrimoine.
Ah bah, et encore faut-il que la loi soit changée. Enfin, vous comprenez, nous, aujourd'hui, on applique la loi, y compris, c'est cette même majorité qui a renforcé la loi en 2018. On l'applique très bien. Donc, je ne vous cache pas que j'espère que Guillaume Kasbarian n'envisage pas de remettre en cause le travail qui a été fait par ses prédécesseurs, et notamment Julien de Normandie. Donc, voilà, aujourd'hui, ce n'est pas ça le sujet. C'est une manière, en fait, de détourner les choses. Votre journaliste, Claire Audière, vient juste d'expliquer très clairement le nombre de communes qui respectent pas la loi SRU. Comment ça se fait qu'on a autant de communes, 20 ans après l'application de la loi, qui ne font pas les logements qu'elles doivent faire? Vous savez combien ça fait de logements, ça, hein? C'est au moins 700 000 logements qui nous manquent.
Merci à vous, Emmanuel Cos, présidente de l'Union sociale pour l'habitat, d'avoir répondu à nos questions. Merci également à Claire Chaudière pour ses précisions. Là, c'est la suite des révélations d'il y a quelques jours sur la contamination des eaux du groupe Nestlé. On parle des départements des Vosges et du Gard. Contamination confirmée il y a quelques semaines par un rapport de l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Depuis, le géant de l'agroalimentaire dit avoir intensifié la surveillance de ses forages. Et hier, le Sénat, lui, a annoncé le lancement d'une mission parlementaire pour, je cite, faire la lumière sur les défaillances de l'État. La sénatrice écologiste de Paris, Antoinette Gull, en sera la rapporteure.
C'est de nous assurer que les règles ont été respectées. Et là, il apparaît que les règles n'ont pas été respectées, d'une part par les industriels, et peut-être, d'autre part aussi, et ça on verra, hein, peut-être d'autre part aussi par l'État qui a modifié la réglementation pour pouvoir permettre sans doute aux industriels de continuer à commercialiser. Donc on va voir si effectivement c'est ça qui est mis en avant lors de cette mission flash. Et puis le dernier point qui est effectivement la qualité des eaux. Donc ça c'est l'ANSES qui l'a souligné. C'est aussi pour avoir toutes les informations en direct. Elle se terminera mi-juillet. Et si besoin, pour une raison ou une autre, si besoin, elle pourra se transformer par exemple en commission d'enquête à partir de la rentrée si nécessaire.
La sénatrice Antoinette Gull au téléphone de France Bleu Sud-Lorraine. Dans le Rhône, la préfecture, elle annonce un renforcement de la surveillance des PFAS, ces polluants éternels. Elle veut étudier les eaux souterraines sur et autour de la plateforme industrielle Arkema Daikin. Nous sommes à Oulin-Pierre-Bénite, c'est au sud de Lyon. L'industriel a jusqu'à la fin de l'année pour cesser d'utiliser ces PFAS sur place. Elle a d'abord servi à nous divertir via les jeux vidéo et on a en tête les images de joueurs avec leurs gros casques devant les yeux. Mais désormais, la réalité virtuelle, puisque c'est d'elle dont on parle, est de plus en plus présente dans le monde du travail, dans le bâtiment notamment. Et cela trouve sa traduction concrète en ce moment à Laval, en Mayenne, où se déroule le salon des technologies immersives. Bonjour Julien Baldacchino.
Bonjour.
Vous vous y êtes rendu à ce salon. Cette réalité virtuelle est très utile, notamment pour la formation. Vous avez testé.
Oui, avec un casque sur la tête, j'ai pu apprendre comme un mécanicien à visser des plaques et des boulons. Tous ces éléments et même la visseuse étaient virtuels. Mais j'étais aidé par un bras robotique qui, lui, était bien réel. C'est futuriste en apparence, mais ce type de dispositif est déjà utilisé dans certaines formations. Benjamin de Lavernie d'Ambard est développeur pour le CEA qui a conçu l'un de ces outils.
L'intérêt, c'est pas d'apprendre des mouvements, par exemple serrer un raccord pneumatique, c'est pas ce qu'on va apprendre en réalité virtuelle. Par contre, on va apprendre tout un processus de montage, toutes les étapes, une suite d'instructions. Et ça, c'est des trucs qui sont du coup plus faciles à faire en virtuel qu'en réel.
L'un des enjeux du développement de la réalité virtuelle est économique. Il permet d'avoir plus d'apprenants formés, y compris dans des métiers techniques. Abdoul Benhamer a créé iOasis, une ville virtuelle mise à disposition des enseignants sur 120 métiers en tension.
Aujourd'hui, on a un problème dans les centres de formation, c'est qu'il y a des coûts d'équipements pédagogiques qui sont énormes. Il y a une obsolescence des équipements, il y a un coût de maintenance. Et malheureusement, aujourd'hui, il n'y a pas des budgets infinis dans ces centres de formation-là, qui fait que la réalité virtuelle est une très belle solution de manière à pouvoir avoir les derniers équipements pédagogiques.
Et selon une étude d'un cabinet américain, le marché de la réalité virtuelle dans l'éducation pourrait tripler d'ici à 2030.
Merci Julien Baldacchino. On retrouve votre reportage sur le site de France Inter. Dans une campagne qui manque un peu de relief, tout de même pour l'instant, c'était ce matin sur Inter, l'un des premiers temps forts, le débat entre Jordan Bardella, tête de liste du Rassemblement National aux prochaines élections européennes, et Raphaël Glucksmann, qui porte lui les couleurs du Parti Socialiste et de Place Publique. Débat d'autant plus attendu que pour l'instant, le président du RN lui sèche les échanges avec l'ensemble des candidats. Bonjour Claire Flochel.
Bonjour.
Vous avez comme nous attentivement écouté ce débat ce matin, et ce qui nous a frappé Claire, c'est que les deux candidats se sont en fait mutuellement accusés d'être sous influence.
En effet, Jérôme, et la première balle est signée Raphaël Glucksmann. Il dénonce les positions de Jordan Bardella, l'eurodéputé qui a voté, il le rappelle, contre la condamnation des milices Wagner, contre le Fonds européen de la défense. Pour défendre les Européens, vous êtes tout simplement absent, accuse la tête de liste PS Place Publique.
Votre patriotisme est un patriotisme d'estrade, de pacotille, parce que dans une situation de guerre, défendre les adversaires de notre nation et ne pas défendre notre nation, ce n'est pas être patriote. Et qu'il y a aujourd'hui un patriote à cette table, et c'est moi.
Mais Jordan Bardella savait qu'il allait être attaqué. Sur les liens entre le RN et la Russie, il a donc préparé ses munitions à l'encontre de son adversaire.
vous avez travaillé, puisque c'est leçon de morale sur les ingérences, si vous voulez, je commence à en avoir un petit peu ras-le-bol. Donc vous avez travaillé pour le compte d'intérêt étranger, pas moi, et pour un président géorgien qui est aujourd'hui en prison.
Otage votre d'un oligarque russe.
Ce qu'essaie de dire Raphaël Glucksmann, c'est que celui dont parle Jordan Bardella est otage. Il s'agit de Mikhail Saakashvili, l'ex-président de la Géorgie pro-occidentale, jeté en prison il y a 3 ans. Raphaël Glucksmann a été son conseiller de 2009 à 2013. Mais le président du Rassemblement National ne lui laisse pas le temps de l'explication. Le but de Jordan Bardella, c'est de se défendre de toute ingérence en faveur de la Russie.
Je dénonce aujourd'hui la Russie comme une menace multidimensionnelle pour notre société. J'ai toujours une position très claire sur ce conflit.
La Russie, une menace multidimensionnelle pour notre société. Ce qui est certain, c'est que l'eurodéputé n'avait jamais été aussi dur envers le pays. Sa dernière prise de position tranchée, c'était il y a plus d'un an, en février 2023. Jordan Bardella avait déclaré qu'il y avait eu une naïveté collective à l'égard des ambitions de Vladimir Poutine.
Claire Flochel, débat Glucksmann-Bardella, que vous pouvez réécouter là aussi sur le site d'Inter. Comment les Iraniens vont-ils répondre à la frappe israélienne? C'était il y a 2 semaines sur le consulat d'Iran à Damas, en Syrie. La France s'en inquiète. Le Quai d'Orsay demande aujourd'hui aux Français de s'abstenir impérativement de voyager dans les jours qui viennent au Proche et au Moyen-Orient en raison, Nathanaël Charbonnier, des risques d'escalade militaire.
Iran, Israël, Liban et territoire palestinien, le ministre français des Affaires étrangères demande donc aux Français de s'abstenir de se rendre dans ces différents pays. Au cœur de cette alerte, les menaces de représailles de l'Iran contre l'État hébreu. La décision a été actée en réunion de crise, selon l'entourage du ministre, Stéphane Séjourné. Il a aussi demandé le retour des familles des agents diplomatiques de Téhéran, ainsi que l'interdiction des missions de fonctionnaires français dans ces pays, et cela face au risque d'escalade militaire au Proche-Orient. La France qui s'inquiète, tout comme certaines compagnies aériennes, la compagnie allemande Lufthansa a annoncé prolonger la suspension de ses vols de et vers Téhéran, probablement jusqu'à samedi inclus, en raison de ces tensions. S'ajoute également l'alerte des États-Unis. L'ambassade américaine en Israël a appelé les ressortissants américains à limiter leurs déplacements en dehors de Tel Aviv, Jérusalem et Beersheba.
Risque d'escalade, c'est exactement la même crainte autour des îles Philippines au sud-est de la mer de Chine. Ces derniers mois, les incidents se sont multipliés entre les navires chinois qui occupent le terrain et les Philippins qui, eux, tentent de protéger leurs intérêts dans leurs eaux. Hier soir, les États-Unis et ses alliés japonais et philippins ont dénoncé le comportement dangereux et agressif de Pékin. Ce matin, la Chine, elle, défend ses actions qu'elle dit légitimes. Notre reporter Nicolas Roca s'est rendu aux Philippines et il a constaté que les pêcheurs philippins faisaient les frais de ces tensions.
Dans le petit port de Masinloc, les prises du jour sont arrosées d'eau de mer pour garder un semblant de fraîcheur. Parmi les passants, Anthony jette un regard désapprobateur sur les poissons vendus à la criée.
Ici, les poissons sont trop petits. Nous, on préfère aller pêcher à Scarborough.
Avec son capitaine Efren, ils se rendent plusieurs fois par mois au récif de Scarborough. Un atoll dans la zone économique exclusive des Philippines à plus de 900 km des côtes chinoises. Mais depuis 2012, Pékin y fait sa loi.
C'est une zone avec beaucoup de bons poissons là-bas, surtout la zone ouverte, celle qui est gardée par les Chinois. Mais on ne peut pas s'en approcher, ils nous empêchent de pêcher. Ce qu'ils font, c'est qu'ils utilisent de gigantesques projecteurs de lumière qu'ils braquent sur nous. Cela diffuse tellement de chaleur que c'est insupportable. Et ils ne s'arrêtent pas jusqu'à ce qu'on quitte la zone. Cela nous fait perdre beaucoup d'argent.
Ils se disent abandonnés et craignent que l'escalade vire à l'affrontement.
Nous avons beaucoup de gardes-côtes qui viennent, mais ils ne peuvent pas passer et aller dans cette zone. La Chine protège ses pêcheurs, mais pour nous, il n'y a pas de protection. La situation est dangereuse, on pourrait se retrouver en guerre.
Les Philippines et leurs alliés comptent augmenter les patrouilles pour répondre à la présence chinoise. Efren et Anthony, eux, n'ont pas l'intention d'abandonner leur terrain de pêche. Nicolas Roca, de retour de Masinloc, RFI pour France Inter.
Nous parlons de l'Asie. Le pape François fait savoir ce matin qu'il se rendra au mois de septembre prochain en Indonésie, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, au Timor oriental et à Singapour. Voyage de 12 jours pour le pape qui a 87 ans.
France Inter, le 13-14... Jérôme Cadet.
Un livre sur 5 acheté en France est un livre de seconde main, d'occasion. C'est un marché en pleine croissance, mais qui échappe aux auteurs et aux éditeurs, qui demandent à la ministre de la Culture de le réguler. Bonjour Ilana Mor-Youssef.
Bonjour.
Vous êtes au Festival du Livre de Paris, où s'est rendu ce matin Emmanuel Macron, et le président a été interpellé sur ce point par les éditeurs.
Oui, visiblement, tous les éditeurs s'étaient donné le mot. Emmanuel Macron a été interpellé une bonne dizaine de fois sur la question du livre d'occasion qui ne rémunère absolument pas ni les auteurs ni les éditeurs. On l'entend ici avec Françoise Nyssen des éditions Actes Sud et elle-même, ancienne ministre de la Culture, inquiète pour l'avenir de la création.
Toute cette partie qui part en occasion ne rémunère pas la création. Donc là, il faut vraiment qu'on trouve une solution. On n'est pas obligé d'appeler cette taxe, c'est une contribution, c'est un truc.
Non, mais on a mis sur le droit, il faudrait revaloriser le droit de bibliothèque.
Voilà, vous l'entendez à la fin de l'extrait, la ministre actuelle de la Culture, Rachida Dati, elle est plutôt favorable à une revalorisation du droit de prêt en bibliothèque. D'ailleurs, un déjeuner avec des éditeurs la veille du salon s'est plutôt mal passé, selon nos informations. Elle leur a reproché d'être des acteurs de la reproduction sociale et insisté sur le fait que des livres d'occasion, donc des livres moins chers, c'est bien pour les quartiers défavorisés. Manifestement, le président a donné raison aux éditeurs.
On va réagir et s'assurer que, en quelque sorte, le livre d'occasion ne puisse pas être ce qui contourne le prix unique du livre, qui est une chance pour la France et qui a permis d'aider les éditeurs et les auteurs et de préserver notre diversité culturelle. Ce qui est vrai, c'est que le livre d'occasion, surtout quand il est fléché par certaines plateformes, c'est une espèce de mauvais usage, en tout cas de contournement de ce prix unique. Donc on va essayer de mettre en place une contribution qui puisse permettre de protéger le prix unique et permettre à nos auteurs, à nos éditeurs, à nos traducteurs aussi, d'être mieux aidés.
Rachida Dati devra faire des propositions d'ici la fin du salon, ce dimanche.
Merci Ilana Mourioussef en direct du Festival du Livre de Paris avec les moyens techniques de Mickaël Simon. Le voyage va prendre un peu de temps, il faut dire que c'est pas la porte à côté. Plus de 5 années pour rejoindre l'une des lunes de Jupiter. La NASA, l'agence spatiale américaine, vient de dévoiler sa dernière sonde interplanétaire. Elle s'appelle Clipper, 5 milliards de dollars et à l'automne prochain, elle va donc traverser une partie de notre système solaire à bord d'une fusée de la société SpaceX. Sophie Becherel, vous êtes avec nous. Alors, le nom de cette lune, c'est Europe. La NASA veut savoir, en fait, si elle peut abriter une forme de vie.
Oui, car c'est l'une des grandes quêtes des astronomes. Y a-t-il un autre endroit que la Terre où les conditions permettent ce qu'on appelle l'habitabilité? Ces conditions, ce sont l'eau, les nutriments et une source d'énergie. Parmi les 92 lunes qui orbitent autour de Jupiter, Europe est une bonne candidate. Sous sa surface, un océan d'eau liquide, selon les informations recueillies par le passé, par d'autres sondes spatiales. Cet océan ne serait pas trop loin de la surface, d'où un peu plus de facilité pour la sonde, pour l'étudier. C'est ce que nous explique Athéna Koustenis, directrice de recherche CNRS à l'Observatoire de Paris.
Tous les instruments à bord vont faire des mesures pour regarder si effectivement on peut percer le mystère de cet océan d'eau liquide sous la surface. Si on peut regarder aussi voir si le carbone, l'hydrogène, l'oxygène, le soufre et d'autres ingrédients pour la vie peuvent exister au niveau de la surface et pénétrer jusqu'à cet océan. Et finalement aussi regarder s'il peut y avoir des sources d'énergie. Et dans le cas d'Europe, c'est bien entendu les forces de marée que provoque la proximité avec Jupiter qui fournit cette énergie dont on a besoin pour un monde habitable.
Europa Clipper arrivera en même temps que la sonde européenne JUICE, partie l'an passé, pour survoler Europe, elle aussi, et débusquer ces mêmes conditions d'habitabilité sur une autre lune de Jupiter, Ganymède. Mais tout cela va demander de la patience, car l'arrivée est prévue en 2031.
C'est ça, dans 5 ans.
5 à 6 années.
C'est ouais. Ça, merci Sophie Becherel. Là, c'est plus court comme voyage, mais c'est pas forcément plus monotone. Voyage en camping-car avec le bond des températures annoncé ces prochaines heures et les départs en vacances de la zone A. Ça concerne notamment le département de la Dordogne, début des vacances scolaires ce soir, et un salon du camping-car qui se tient au parc des expositions de Marsac. Simon Jarnier a constaté que les camping-cars étaient déjà nombreux près de Périgueux.
Roland et Martine sont descendus de Beauvais avec leur camping-car profilé de 7 mètres de long.
On l'adore notre camping-car, c'est notre deuxième maison et je m'en séparerai pas.
À l'intérieur, les animaux sont partout sur les éléments de décoration avec d'autres touches personnelles.
Les petites lumières au bord du lit là-bas dans la chambre.
Il fait froid, ça fait cosy, on allume les petites lumières.
Installés à quelques mètres de là, monsieur et madame Hérisson ont mis des autocollants hérissons tout autour de leurs nouveaux bijoux.
Dès qu'on change de camping-car, je commande les autocollants. Il y en a un là et il y en a un sur l'arrière du camping-car.
Depuis 1996 et son premier combi, le couple a déjà usé 8 camping-cars.
On a un moteur, on a des roues. C'est pour se déplacer, c'est pour visiter. Tous les ans, on va au championnat de France de cyclisme en camping-car. Moi, je ne conçois pas des vacances autrement, quoi.
Roland Despierres, les voisins sont aussi de sacrés baroudeurs. Plus de 70 000 km parcourus en 15 ans avec leur camping-car intégral.
Moi, dès qu'il y a un rayon de soleil, dès qu'il n'y a plus de pluie, je pense qu'à ça.
Leur cocon peut même accueillir Oscar, leur petit-fils, avec Nino, le terrier irlandais. Tout le monde passe dans le petit salon.
Le chien, il adore.
Le chien, il ne loupe pas un voyage.
Il dort avec nous dans le là-bas.
La famille, il y a 4. 2 litres 140, c'est bon. Hein.
Dans quelques heures, ils partiront direction la Corrèze.
Voilà, reportage France Bleu Périgord. 13h30 sur Inter. Déjà, à suivre dans la prochaine demi-heure, la météo d'Élodie Calac. Puis notre invitée, la neuropsychologue Sylvie Chocron. Avec nous, elle publie « Dans le cerveau 2 ». C'est une série d'entretiens avec des personnalités pour comprendre comment fonctionne notre cerveau et mieux l'utiliser, évidemment. J'attends vos appels. 01 45 24 7000. 13h45, notre feuilleton avec les chiens policiers. Nous verrons aujourd'hui comment ils interviennent sur le terrain. 13h50, c'est la France. Bonjour Jean-Philippe Leclerc.
Bonjour.
Du journal L'Équipe, vous nous parlez, Jean-Philippe, chicorée et basket.
Oui, je vais vous expliquer comment cette boisson chaude sans caféine est à l'origine de l'incroyable succès des clubs de basket féminin des Hauts-de-France, notamment Villeneuve-d'Ascq en Euroleague cet après-midi.
Je suis très impatient d'avoir le lien entre tous ces éléments. Et puis notre rendez-vous, le dernier, avec le chanteur Raphaël. Honneur aujourd'hui à un chanteur qui tient donc à grandir dans le Nord.
Et moi je suis tombé en esclavage de ce sourire, de ce visage. Et je lui dis emmène-moi.
Raphaël chante Pierre Bachelet, c'est juste avant 14h. A tout de suite.
Salut les matelots, je suis sûre que vous vous posez un tas de questions.
20h05, Camille Cronier.
Qu'est-ce que ça veut dire abracadabra ?
Ah oui, je vois que vous êtes très très curieux. Eh ben ça tombe bien parce que dans les petits bateaux, on a plein de gens et même des savants.
Et là, ils sont avalés par les atomes.
Pour vous répondre.
Merci. Au revoir.
Les petits bateaux.
C'est tous les soirs sur France Inter, après les infos de 20h.
Et quand vous voulez, sur l'appli Radio France et franceinter.fr.
Le temps de votre après-midi.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros et des particuliers. Véhicules électriques, hybrides ou thermiques, Euromaster garantit votre mobilité et préserve votre budget.
Bonjour Élodie Calac.
Bonjour à tous.
Journée ensoleillée et très douce.
Oui, on a les hautes pressions qui sont installées sur le pays. Du soleil qui brille sans encombre sur la moitié sud, avec encore du Mistral en vallée du Rhône jusqu'à 50 km à l'heure. Sur les régions du nord, là aussi beaucoup de soleil. Quelques nuages d'altitude ici ou là sans incidence. C'est un petit peu plus nuageux entre la région parisienne, Champagne-Ardenne et la Lorraine. Et puis quelques nuages bas peuvent flirter avec le littoral de la Vendée et du sud de la Bretagne. On a des températures en hausse partout, très douces voire chaudes au sud. 19 à 24 degrés attendus au nord, 24 à Paris, souvent 22 à 26 au sud. Demain, beaucoup de soleil, des nuages bas tout de même sur les côtes du nord-ouest et du Pas-de-Calais, et des températures qui monteront encore d'un cran, 18 à 23 degrés attendus près de la Manche, 24 à 28 sur le reste de la moitié nord, 25 à 30 au sud. Ça restera chaud dimanche au sud, mais ça baissera quand même par le nord.
Merci Élodie Calac, Météo France.
France Inter, le 13-14. Jérôme Cadet.
Bonjour Sylvie Chocron.
Bonjour.
Vous êtes neuropsychologue, psychologue spécialisée dans le fonctionnement et malheureusement les dysfonctionnements de notre cerveau. Vous êtes directrice de recherche au CNRS ainsi qu'à l'Université de Paris et vous venez de publier Dans le cerveau 2, c'est aux éditions Les Presses de la Cité, 12 rencontres avec des personnalités.
16
rencontres, j'en ai manqué 4, avec des personnalités sportives, parfumeurs, musiciens, cuisinières, et vous nous expliquez, entre autres, il y a d'autres profils, vous nous expliquez en fait comment fonctionne notre cerveau en vous basant ce que nous dit la recherche. Ce sont des allers-retours entre l'expérience de ces personnalités et puis les recherches menées par des scientifiques à travers le monde. C'est passionnant, c'est surtout extrêmement utile, d'où cette invitation, d'où l'invitation aussi lancée aux auditeurs à nous appeler. 01 45 24 7000, vous passez également via l'application France Inter. Vous dites, Sylvie Chocron, je veux faire découvrir le fonctionnement de notre cerveau au plus grand nombre. Ça veut dire que vous êtes un peu lassés peut-être d'entendre des choses qui vous paraissent aberrantes sur le fonctionnement de notre cerveau, des idées fausses ?
Alors vous avez tout à fait raison. Donc nous, on parle de neuromythes, c'est-à-dire
des neuromythes.
Des neuromythes. C'est très élégant pour parler de ces mythes sur le cerveau. Donc vous entendez régulièrement qu'on n'utilise que 10% de notre cerveau, que les femmes ont un cerveau plus petit que les hommes, qu'elles ont un cerveau qui leur permet de faire plusieurs choses à la fois. Et donc en fait, voilà, vous entendez en permanence des mythes sur votre hémisphère gauche, votre hémisphère droit. Et c'est vrai que moi j'ai eu envie de réconcilier l'histoire individuelle de chacun, c'est-à-dire que de la même manière qu'on parle de biodiversité ou de diversité culturelle, on l'a entendu juste avant, bah on peut parler de neurodiversité. Donc on a chacun notre façon d'utiliser notre cerveau et j'ai eu envie comme ça de naviguer entre l'histoire individuelle de chacun et la façon dont chacun utilise son cerveau et puis ce que nous disent les recherches en neurosciences de ces dernières années, histoire d'expliquer à tout le monde comment fonctionne leur cerveau, peut-être que les gens puissent se reconnaître à travers ces histoires-là et puissent en apprendre plus sur leur propre fonctionnement.
Je vous confirme qu'on se reconnaît à travers ces histoires. Je rebondis sur les 10% du cerveau utile ou utilisé. C'est faux. Expliquez-nous et d'où ça vient, d'où ça peut venir.
Alors oui, c'est faux et je vais vous expliquer. Pourquoi ce serait très bien qu'on n'utilise que 10% de notre cerveau ? Parce que si, en cas d'AVC ou de tumeur ou de maladie, ben, il nous resterait 90% pour venir
suppléer. Pour prendre le relais ?
Exactement, ce qui n'est pas le cas. Alors moi, je pense que ce mythe vient du fait qu'on n'est pas conscient de tous nos processus cognitifs. Donc, on n'est conscient que d'une partie infime de ce que fait notre cerveau. Et donc, on a confondu le fait que notre cerveau fait des tas de choses sans qu'on en ait conscience avec le fait qu'on utilisait réellement que 10% de notre cerveau. Donc, il faut corriger ce mythe. On utilise tout notre cerveau, même quand on lui demande rien, il est très actif. Et donc, il faut arrêter de penser qu'on pourrait utiliser 90% restant.
On utilise tout le temps l'ensemble de notre cerveau ou alors, à certains moments, on n'utilise qu'une partie de notre cerveau. Il y a des parties qui sont au repos. Ça dépend du moment de la journée, ça dépend ce qu'on fait.
Alors, on utilise une grande partie de notre cerveau et effectivement, en fonction de ce qu'on fait, on va solliciter certaines aires plutôt que d'autres. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que même quand vous rêvez un peu éveillé, vous voyez quand votre esprit vagabonde, quand vous êtes là entre deux tâches, bah votre cerveau, lui, travaille énormément, alors que vous n'en avez pas conscience. Mais il consolide tout ce que vous avez appris. Il associe des idées que vous n'auriez pas forcément associées. En réalité, quand vous ne demandez rien à votre cerveau, c'est pendant ce moment-là que lui en profite pour travailler, pour résoudre des problèmes, des questions que vous lui avez posées, pour consolider les souvenirs, pour faire des projets, pour lier ce que vous avez fait par le passé avec ce que vous allez faire dans le futur. Donc, lorsque vous ne lui demandez rien, lui, il est extrêmement actif.
Ça, c'est toute l'importance du sommeil. On parle beaucoup du sommeil des Français qui dorment de moins en moins. Le sommeil, ça sert à ça.
Exactement.
Ça sert à fixer, ça sert à enregistrer.
Et puis, ça sert aussi à rêver, ce qui est extrêmement important. Donc, pendant le sommeil, non seulement vous consolidez tous vos souvenirs en mémoire, mais aussi vous rêvez, et le rêve, c'est déterminant pour pouvoir digérer certaines émotions, pour pouvoir être créatif, pour pouvoir résoudre des problèmes. On sait qu'il y a des gens qui ont fait des découvertes au réveil, après leur rêve. Donc le rêve, il permet de garder une bonne santé morale, une bonne santé cognitive aussi. Donc c'est extrêmement important, le sommeil.
J'ai appris dans votre livre, Sylvie Chocron, que l'optimisme était lié à la matière grise qui est présente dans une partie du cerveau qui s'appelle le putamen, c'est
exactement,
c'est ça ?
Exactement. Donc en fait, j'ai effectivement consacré un chapitre au cerveau d'un optimiste. Donc cet optimiste, c'est François Saltiel. Donc c'est un journaliste, un collègue à vous de France Culture, qui m'a expliqué comment il entretenait son optimisme. Et c'est vrai que c'est fascinant et que c'est très inspirant.
Et donc, cette partie-là du cerveau est plus ou moins développée selon les gens. C'est ce qui expliquerait que certains sont optimistes ou pas.
Alors, il y a eu des recherches.
Elle grandit, j'ai envie de dire, selon notre vie, nos rencontres, ce qui nous arrive.
Exactement. Donc, il y a eu des recherches qui ont visé à comprendre s'il y avait quelque part une génétique de l'optimisme, s'il y a un gène de l'optimisme. Et en réalité, on n'est pas prédéterminé à être optimiste ou pas. Par contre, on peut décider d'être optimiste, de voir la vie plutôt du bon côté. Et au fur et à mesure, on va être optimiste, on va développer effectivement certaines régions dans notre cerveau qui vont nous permettre d'entretenir ce trait de caractère.
Alors, vous parlez des sens, notamment, Louis, vous parlez de la musique avec André Manoukian, vous parlez de l'odorat, les odeurs dont on peut se souvenir très longtemps, selon les émotions aussi qu'on ressent, c'est très important. Nous avons une question qui concerne la vue, c'est Simone qui nous appelle du Lot-et-Garonne. Bonjour Simone.
Bonjour.
Nous vous écoutons.
Bonjour à tous. Merci de prendre ma question. Voilà, j'ai entendu qu'un centre de recherche de Lausanne avait trouvé, en faisant un implant dans le cerveau, le moyen de rendre la vue aux gens qui l'ont perdu à la suite d'un glaucome et de faire remarcher les gens qui ont eu une lésion de la moelle épinière. Est-ce que vous pourriez m'apporter quelques précisions à ce sujet ?
Merci Simone pour cette question. Sylvie Chocron.
Oui, alors effectivement, il y a de plus en plus de recherches, et il y en a aussi à Paris, dans mon laboratoire et dans d'autres, des recherches qui permettent effectivement d'utiliser ce qu'on appelle des interfaces cerveau-machine, c'est-à-dire véritablement des implants qu'on va venir poser dans le cerveau et qui vont essayer de suppléer à la lésion cérébrale pour redonner une fonction. Donc effectivement, il y a plusieurs recherches dans le domaine de la motricité, dans le domaine de la vision. C'est un peu l'équivalent des implants cochléaires qui existent déjà pour l'audition. Et donc, on va aller de plus en plus vers ces interfaces cerveau-machine qui vont permettre parfois de venir remplacer une partie du cerveau qui ne fonctionne pas comme elle devrait, ou de, au contraire, une partie de la moelle, donc du système nerveux mais périphérique, qui ne fonctionne pas comme elle devrait.
Est-ce que ça veut dire que dans l'avenir, on va venir vers des cerveaux augmentés, on pourra avoir des capacités de mémorisation plus grande, entendre mieux, se souvenir de davantage de choses avec des implants?
Alors ça reste en même temps un fantasme pour la population générale et un rêve pour certains chercheurs de pouvoir mettre au point ces outils-là. Moi, j'ai envie de vous dire que déjà, en ce moment, et c'est ce que j'essaye d'expliquer dans le livre, on a les moyens d'augmenter nos capacités, de les utiliser au mieux. En fait, je pense que ces 20-30 dernières années, on a été beaucoup bercés par la psychologie, la psychanalyse, et je n'ai rien contre la psychanalyse et la psychologie clinique, mais je pense qu'on a un peu délaissé la connaissance du fonctionnement de notre cerveau. Et moi, je milite vraiment pour qu'on puisse connaître le fonctionnement de notre cerveau pour qu'on puisse faire équipe le mieux possible avec lui et qu'on puisse utiliser au mieux nos capacités déjà aujourd'hui sans puce et sans implant.
C'est un peu la question de Gwen qui est aussi une question un peu personnelle pour vous, Sylvie Chocron. Pouvez-vous nous dire comment fonctionne le cerveau de votre invité qui fait de la recherche, écrit des livres, intervient dans les médias, alors que moi je suis débordé avec ma petite vie, les enfants et le travail? Comment mieux s'organiser? Est-ce que notre cerveau a à voir avec ça? Et alors, comment est-ce qu'on peut faire?
Alors je rassure Gwen, moi aussi je
vous aussi vous êtes débordé?
Voilà, bon. Moi aussi je suis débordée, mais par contre ma grande chance c'est qu'il y a quand même un lien très important entre toutes mes activités, et donc chacune nourrit l'autre, et donc du coup c'est sans doute ce qui m'aide à mener plusieurs activités de front. J'ai aucun talent particulier pour ça.
Mais est-ce qu'on peut, en travaillant sur notre cerveau, cloisonner les choses, être concentré sur une tâche?
Alors,
et ensuite une autre? C'est comme ça qu'on arrive à faire différentes choses, à faire avancer différentes choses à la fois?
Oui, vous venez de dire un mot-clé qui est la concentration, et peut-être que je peux quand même dire à Gwen que moi j'ai une grande chance, c'est que je ne suis pas du tout sur les réseaux sociaux. Et donc du coup j'échappe quand même tous ces réseaux qui prennent énormément de temps, qui sont très chronophages. Et peut-être aussi que j'échappe à un mal actuel qui est la difficulté à se concentrer et à faire attention. Et donc actuellement, on sait que l'hyper-usage des écrans ne nous facilite pas la tâche d'un point de vue attentionnel et mnésique. Et c'est vrai que si on veut pouvoir faire plusieurs choses à la fois et se concentrer à chaque fois sur chaque chose, c'est important de dorloter nos capacités attentionnelles et notre mémoire.
Les effets des écrans justement sur nos cerveaux, on lit un peu tout et son contraire. Il y a des études contradictoire, Sylvie Chocron. Est-ce que les écrans abîment nos cerveaux? Est-ce qu'on est sûr de ça?
Alors, en fait, je ne dirais pas qu'ils abîment nos cerveaux. Je dirais simplement qu'il faut être conscient qu'en utilisant à outrance des outils technologiques pour déléguer nos capacités, par exemple, quand vous prenez le GPS de votre téléphone ou de votre voiture plutôt que le GPS que vous avez dans votre cerveau, qui est plus efficace, qui a servi de modèle au GPS sur votre téléphone.
Il est fait pour ça, en fait, notre cerveau. On a déjà l'outil.
Exactement. On a un GPS puissant qui a d'ailleurs permis à des chercheurs d'obtenir le prix Nobel. Et ce GPS très puissant qu'on a dans notre cerveau, on va le délaisser au profit du GPS de notre téléphone. C'est pareil pour la mémoire, c'est pareil pour plein de capacités qu'on délègue. Ce dont il faut être conscient, c'est qu'en déléguant nos capacités, on a un risque quand même de les voir peu à peu s'amenuiser. Donc si on veut protéger nos capacités, il faut aussi s'en servir. Et vous savez qu'on dit toujours que le cerveau est le seul organe qui s'use si on ne s'en sert pas.
On parle de ce que l'on peut faire avec notre cerveau. On travaille la mémoire, on a des capacités qu'on n'est pas obligé de déléguer à la machine. Est-ce qu'on peut aussi travailler sur nos peurs ? J'ai peur des souris, j'ai peur des chiens ou d'autres choses, chacun ses peurs. Est-ce qu'on peut agir là-dessus ?
Alors, on peut tout à fait agir, c'est-à-dire qu'on peut expliquer à notre cerveau que l'objet de notre peur, en réalité, objectivement, n'a aucune raison de nous faire peur. Donc, je vous prends un exemple vécu, voilà, je suis en train de parler à la radio. Imaginons que j'ai un stress énorme qui m'assaille, je peux essayer de dire à mon cerveau que plutôt que d'être stressée de venir vous parler en direct, je vais vivre un moment unique qui va être extrêmement agréable, qui se reproduira jamais. C'est-à-dire que je peux donner une connotation à cet événement qui n'est pas lié à du stress, mais qui est lié à du plaisir. Et donc je peux
trouver un aspect positif dans quelque chose qui peut nous effrayer.
Exactement. Et donc je peux au fur et à mesure habituer mon cerveau à considérer certaines situations de manière différente, et on sait que les gens qui nous semblent ne jamais avoir peur, par exemple les gens qui escaladent des gratte-ciels à main nue,
oui,
les gens qui font des performances incroyables, les funambules,
très agaçant,
on se dit mais enfin comment c'est possible d'avoir ce courage-là ? En réalité, ce que les neurosciences nous apprennent, c'est que quand vous vous êtes surentraîné, vous ne ressentez plus la peur. Et si vous ne ressentez plus la peur, alors à ce moment-là, est-ce que vraiment vous êtes courageux ? Ou c'est simplement que vous avez réussi à diminuer l'activité d'une petite région dans votre cerveau qui s'appelle l'amygdale et qui fait que vous avez moins peur. Donc vous avez apprivoisé la région de la peur. On sait que la méditation est aussi très utile pour ça.
Alors d'où viennent ces peurs ? Question d'Odile. Est-ce que les recherches permettent de dire s'il y a plus d'inné ou d'acquis en fonction des gens. Est-ce qu'on sait ça, Sylvie Chocon ?
Alors, je répondrai de manière générale sur cette question de l'inné et de l'acquis, que depuis une bonne vingtaine d'années, on étudie, et en particulier voilà, dans mon laboratoire, il y a ce qu'on appelle un baby lab. Donc, on étudie les bébés dès la naissance, voire même avant la naissance, et on étudie le développement de leurs capacités cognitives. Et finalement, cette question de l'inné et de l'acquis, elle se pose de moins en moins, parce qu'on se rend compte que déjà, in utero, les bébés apprennent des choses. Ce qui veut dire que quand ils naissent, ce qu'ils ont à la naissance...
On apprend déjà avant la naissance.
Exactement. Donc leur capacité à la naissance, on ne peut pas vraiment dire qu'elles sont innées parce qu'il y a eu déjà un apprentissage in utero. Donc finalement, on pourrait dire qu'on naît avec un équipement qui va nous permettre de réagir à tout notre environnement et que cet équipement cérébral, il va se modifier au cours du temps au vu des expériences qu'on va vivre.
On a énormément de questions, mais on n'a plus de temps. Donc, je renvoie les auditeurs à ce livre, Dans le cerveau 2. C'est aux presses de la Cité. Et puis, comme l'a souligné Gwen, vous faites énormément de choses. Et notamment, ce podcast, ça s'appelle Tout Doux. C'est destiné aux enfants à partir de 2 ans. On le trouve sur le site et sur l'application de France Inter. C'est avec Zoé Varier. Merci Sylvie Chocron.
Merci beaucoup
d'avoir été avec nous aujourd'hui. 13h47. Notre feuilleton avec les chiens policiers. C'est le dernier épisode aujourd'hui. Nous sommes toujours en compagnie de la brigade de Rouen et nous allons voir comment ces chiens interviennent sur le terrain. Illustration à l'entraînement.
Lâchez votre arme, monsieur. Lâchez votre arme. Lâchez votre arme, monsieur.
L'individu ne lâche pas son arme. Donc là, l'utilisation du chien.
Lâchez votre arme, monsieur. Viens, mon loulou.
Voilà, donc là, le chien, il est au mordant. Et normalement, il lâche plus. Vous allez voir, le collègue homme d'attaque va le solliciter un peu, va le faire bouger, va taper, va faire du bruit. Vous allez voir que le chien ne va pas lâcher.
Oh oui,
t'es peur. Donc là, on va saisir une attaque, en fait, hein, un individu armé d'un bâton. Donc là, bien évidemment, il va falloir faire lâcher le chien. Donc là, on appelle ça la période de cessation, en fait. On bloque un petit peu la trachée pour que le chien ait besoin de respirer. Et du coup, lâche sa prise. Et du coup, le collègue homme d'attaque retire la prise.
Lâchez votre arme, monsieur police. Lâchez votre arme, monsieur police. Attention, monsieur police.
On précise, parce qu'on est à la radio, que les coups qu'on entend ne sont pas donnés directement sur le chien. C'est sur le costume.
C'est ça, tout à fait. En fait, c'est même pas des coups, hein, c'est juste du bruit. Hein. C'est purement sonore.
Bonjour, brigadier chef de la brigade canine, Alexandre, je suis dresseur au CRFUC de Rouen, en binôme avec mon collègue Cyril, moniteur. Je suis le méchant, donc c'est un peu frustrant parce que du coup, moi j'aimerais bien les câliner, etc. Mais à force de faire le méchant, certains chiens font le distinguo et c'est très bien, mais d'autres pas du tout. Alors ça arrive de temps en temps que je ne mette pas l'équipement, alors pas pour le mordant, attention, pour la museler, parce que certains chiens sont très intelligents et arrivent à piffer, donc quand on dit piffer, arrivent à sentir mon équipement. Il y a des chiens qui trichent et au lieu de me chercher moi, ils cherchent le matériel. Donc des fois je laisse traîner le matériel et je me cache moi pour qu'il puisse dissocier mon odeur de celle du matériel. Mais à 90% du temps je suis protégé. J'ai toujours une sensation de douleur. Par contre, je ne suis pas perforé, je ne suis pas en sang, j'ai pas les muscles déchirés. Mais voilà, au niveau de l'engagement physique, elle est quand même présente. Donc il faut, autant pour les chiens, un entraînement physique pour pouvoir encaisser les entraînements. Et moi, il faut que, pour que je puisse donner ces entraînements-là, il faut que je puisse, à côté de ça, me préparer physiquement.
Police, entrez-vous !
Hey !
Monsieur !
Donc l'individu n'obtempère pas et prend la fuite. Donc là, il n'y a pas d'utilisation de chien au mordant, puisqu'il n'y a pas de raison. Donc vous avez vu, le chien il percute avec tout son élan dans le dos de l'individu qui prend la fuite. Le chien sera toujours plus rapide que l'individu qui prend la fuite à pied. Ça, c'est irrémédiable.
On peut, en fonction de ce qu'on a dans la voiture, on a deux chiens par voiture, s'équiper d'un chien qui est totalement silencieux parce qu'on va sur une situation où on doit progresser et s'approcher au plus près de l'intervention de façon silencieuse. Quand on a besoin d'être aux abords d'un stade où c'est le bazar et il faut un chien efficace, hein, toujours, mais un chien qui doit être dissuasif, on va sortir un chien qui vocifère, qui est présent et qui lui va aboyer dans tous les sens. Et en fonction des cas, on peut même mettre les deux côte à côte et celui qui va être dissuasif va continuer à aboyer, celle d'à côté, je parle pour moi, ma petite femelle que j'ai dressée, elle va être silencieuse, mais c'est pas pour autant que les deux vont pas intervenir de la même manière. Demain, j'ai un individu, s'il est armé d'un couteau, on a des techniques police qui permettent de neutraliser l'individu avec un chien démuselé. Maintenant, le risque zéro n'existe pas. Le chien dans sa course, le chien dans sa prise au mordant peut prendre un coup de couteau, peut prendre un tir d'arme à feu. Mais par contre, c'est des chiens totalement habitués. Et je peux vous le garantir, la douleur sera tellement intense que l'individu ne pensera même plus à essayer de blesser le chien.
Une semaine dans leur vie. Merci à Ariane Grissel qui nous a proposé cette série. Merci également à Stéphane Ronxin qui l'a réalisée.
France Inter, le 13-14.
C'est la France. À 13h51, le vendredi, on parle de la France du sport. C'est avec le journal L'Équipe et avec Jean-Philippe Leclerc. Jean-Philippe, vous nous emmenez aujourd'hui dans le Nord.
Oui, Jérôme, je me sens aujourd'hui l'âme d'un guerrier, ou plutôt d'une guerrière, le surnom des basketteuses de Villeneuve-d'Ascq, qui affrontent dans 1h10 les Tchèques de l'USK Prague en demi-finale de l'Euroleague, cette compétition qui est au basket féminin, ce que la Ligue des Champions est au football, c'est-à-dire la crème de la crème. 10 ans déjà qu'un club français n'était plus parvenu dans le dernier carré continental, et cet exploit, on l'attendait plutôt des basketteuses de l'AS Villeurbanne. Pourquoi ? Parce que les banlieusardes de Lyon possèdent un budget annuel de 6 millions d'euros, soit deux fois plus que les banlieusardes lilloises. Mais voilà, les guerrières de l'entente sportive Villeneuve-d'Ascq, Lille Métropole, possèdent une autre forme de richesse, celle de la tradition. Elles marchent dans les pas d'autres géantes du Nord, celles de Valenciennes hier et d'Orchy il y a encore plus longtemps. Le basket féminin français a souvent été bien vu chez les ch'tis. La première division a compté jusqu'à 5 clubs du Nord et du Pas-de-Calais.
Comment on explique un tel phénomène ?
Alors tout est né au fond d'un bol de chicorée. Vous vous souvenez, Jérôme, quand vous étiez enfant, dans les années 50 ?
Oui, c'est ça.
De la chicorée Leroux, trésor de bienfaits, comme le proclamait la réclame. Eh bien, Robert Leroux, petit-fils d'Alphonse Henri François Leroux, le fondateur de la marque, était un passionné de sport. En 1977, il prend le très modeste club de basket d'Orchy, alors en division départementale, et l'emmène dans l'élite en moins de 10 ans. Rien n'est trop beau, trop grand pour les demoiselles d'Orchy. Même pas la plus grande basketteuse de tous les temps, à tous les sens du terme, Ulyana Semenova, 2m18, 135 kg, pointure 65, fillette, débarque à Orchy en 1989. Diabétique, presque toujours blessée, la montagne soviétique au pied d'argile jouera peu et ne restera qu'un an. N'empêche, Orchy a pris une autre dimension et fusionne avec sa voisine Valenciennes. L'Union sportive Valenciennes-Orchy, l'USVO, devient l'un des meilleurs clubs français et européens. 6 titres de champion de France, 2 Euroleague, une vraie dream team à la ch'ti avec des joueuses comme Isabelle Fijalkowski, Edwige Lawson ou
Audrey Sauret. On a donc le lien entre chicorée et basket, mais Jean-Philippe, ce conte de fées va mal se terminer.
Oui, Jérôme, il va y avoir du vinaigre dans la chicorée, nostalgique des premiers temps héroïques. Robert Leroux a claqué la porte le premier, puis le nouveau président du club, Francis de Courrières, et le maire de Valenciennes, Jean-Louis Borloo, décident de sacrifier le club de basket féminin pour tout miser sur le football masculin. L'USVO disparaît en 2008. Mais les guerrières de Villeneuve-d'Ascq ont depuis repris le flambeau. Le club s'est construit patiemment, sans règlement de compte politique ni géante soviétique, sans les moyens non plus des plus grandes écuries continentales. La preuve, les nordistes vont laisser partir leur meilleure joueuse, Kennedy Burke, avant même la fin de la saison. L'ailière américaine a déjà signé pour le New York Liberty, une franchise de la puissante ligue d'outre-Atlantique, la WNBA. Avant son départ, Kennedy Burke rêve d'offrir l'Euroleague à Villeneuve-d'Ascq. Ce serait la première victoire d'un club français dans la compétition depuis 20 ans et le triomphe de, devinez quelle équipe ? Eh oui, l'US Valenciennes
en
2004.
Un autre club, ouais, du Nord.
Alors à 15h, faites comme moi, installez-vous avec un bon bol de chicorée.
Je savais bien que ça vous plaisait.
En direct sur le site de l'équipe, la demi-finale d'Euroleague entre Villeneuve-d'Ascq et Prague. Allez les guerrières et vive le basket féminin, trésor de bienfaits pour le sport français.
Le spécialiste du sport et du placement de produits un petit peu, Jean-Philippe Leclerc du journal L'Équipe. Et c'est l'heure de notre carte blanche avec le chanteur Raphaël. Là aussi, il y a un lien avec le Nord. Raphaël, toute cette semaine, nous a parlé des chansons qui ont marqué sa vie. On boucle la boucle, en quelque sorte, aujourd'hui, avec une nouvelle chanson de l'enfance.
Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une chanson d'enfance aussi. Quoi, j'avais 6 ans ou 7 ans, et je me rappelle que j'adorais cette mélodie, peut-être parce que j'aimais les extraterrestres passionnément. J'avais pas encore compris que les extraterrestres, si jamais ils existent, nous traiteraient probablement comme nous traitons les espèces inférieures, c'est-à-dire les fourmis ou les moustiques, et voudraient nous faire des expérimentations terribles sur nous. Là, je m'embarque dans un domaine dangereux, mais j'aimais les extraterrestres, je croyais beaucoup, c'était l'époque de E.T. Et donc il y avait cette chanson qui disait « Elle est d'ailleurs ».
Pour moi, c'est sûr, elle est d'ailleurs.
Et je pensais que c'était une référence évidemment à d'autres planètes, quoi. Et peut-être. C'est une chanson de Pierre Bachelet qui est très belle, voilà. Je sais que pour beaucoup de gens qui ont mon âge, elle représente un souvenir d'enfance assez fort parce que c'était un tube énorme et que la mélodie est très, 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 très belle. Alors après, quand on la réécoute, il y a quelques phrases qui interpellent au moment où quelqu'un traverse pour aller chez le boucher. Peut-être que les véganes d'entre vous vont dire « Putain, c'est quoi ce bordel ? Quelle époque !»
Elle a de ces manières de ne rien dire qui parle au bout des souvenirs. Cette manière de traverser quand elle s'en va chez le boucher, quand elle arrive à ma hauteur. Pour moi, c'est sûr, elle est d'ailleurs. Et moi, je suis tombé en esclavage de ce sourire, de ce visage. Et je lui dis, emmène-moi. Et moi, je suis prêt à tous les sillages, vers d'autres lieux, d'autres rivages. Mais elle passe et ne répond pas.
Alors là, j'ai décidé de vous faire une version piano-voix avec une petite intro un peu jazz et puis un parti pris qui est de chanter très grave sur le couplet, probablement au moins 3 tons en dessous de ma tessiture normale et très aigu sur le refrain, probablement 1 ton au-dessus de ma tessiture normale. Comme ça, on sera jamais à l'aise et on va voir ce qui se passe. Ces lumières au fond des yeux qui rendent aveugle ou amoureux. Elle a des gestes de parfum qui rendent bête ou rendent chien, et si lointaine dans son cœur. Pour moi, c'est sûr, elle est d'ailleurs. Elle a de ses manières cette manière de traverser quand elle s'en va chez le boucher, quand elle arrive à ma hauteur. Pour moi, c'est sûr, elle est d'ailleurs.
Et moi je suis tombé en esclavage de ce sourire, de ce visage, et je lui dis emmène-moi. Et moi je suis prêt à tous les sillages, vers d'autres lieux, d'autres rivages, mais elle passe et ne répond pas. Les mots pour elle sont sans valeur. Pour moi, c'est sûr, elle est d'ailleurs.
C'est le moment de se dire au revoir. C'était merveilleux de jouer pour vous cette semaine, toujours à l'heure du déjeuner. J'espère que j'ai accompagné des repas très agréables. En tout cas, pour moi, c'était très agréable. Et je vous embrasse très fort et vous souhaite un très bon week-end puisqu'il s'agit de ça tout de même. Ciao.
On a passé une très bonne semaine avec vous. Merci Raphaël, on a été très heureux de vous proposer cette carte blanche. On va poursuivre un peu avec la musique de Raphaël. Pour les remerciements, ce 13-14 a été préparé par Cécilia Arbona, Estelle Schmitt et Thibaut Cavaillès à la rédaction en chef, accompagné de Stéphanie Valois, assisté par Carline Desrosiers, Swad Bellani, Nicolas Sabat, Rachid Zourdani et Sylvain Lesage. Merci également à nos techniciens Arnaud Caillé et Ludovic Asselot, ainsi qu'à tous nos standardistes.